Public, Yann Lafrenière met sur pied un comité d'anciens hauts gradés de la police, des gars qui ont une solide expérience au Québec comme policiers, qui sont aujourd'hui à la retraite, pour l'aider à rétablir l'ordre dans certaines régions du Québec et tenter notamment d'empêcher les Hells Angels d'afficher leurs couleurs. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact si jamais Yann Lafrenière réussit à faire passer ses idées au Québec, c'est-à-dire d'interdire aux Hells Angels de porter leurs vêtements? Bien, on a eu idée d'en jaser avec notre ancienne police préférée, c'est Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Salut Roger!
Salut monsieur!
Très content de vous jaser ce matin. Vous êtes sapé comme un prince à cette heure-ci. Vous vous levez donc bientôt?
Ben exceptionnellement, les mardis matins, j'ouvre le gym à l'école où j'enseigne, au Cégep Garneau, pour permettre aux plus jeunes qui font les équipes intercollégiales de faire du shooting libre. Alors, ce matin, vous ne m'avez pas réveillé, contrairement aux autres habitudes.
Roger, on se posait la question. Nous, de mémoire, moi et Jeff, on avait ça en tête. Fut un temps où on avait interdit, je pense que c'était pendant la guerre des motards, là, les Hells Angels de s'afficher. Est-ce qu'il y avait les Rock Machines à l'époque aussi qu'on avait interdit de s'afficher? Tu sauras me répondre. Mais on avait déjà tenté l'expérience. Est-ce que ça avait eu un impact à ce moment-là?
Ben oui, ça avait eu un impact, mais en fait, on l'avait toujours essayé. Mais on essayait toujours de passer cette loi-là de façon criminelle avec le code criminel. Ça prenait une loi canadienne qui allait être votée, qui allait faire les modifications. Et le problème qu'il y a eu, c'est que nous, au Québec, ça n'a jamais passé le test final des tribunaux. À chaque fois, il y avait une genre de négociation qui se faisait avec les procureurs de la défense, et dire, ben, retirez-moi les chefs gangstéristes, retirez-moi les chefs qui touchent les patchs. Et à ce moment-là, on va plaider coupable. Alors, on a souvent plié du genou. Au Manitoba, ils avaient réussi à le faire. Manitoba, ils ont déclaré partout là-bas que c'était interdit, encore là, criminellement. Alors, les Hells n'avaient plus le droit de se promener avec leur patch. Mais si on regarde objectivement parlant, il aurait pu à ce moment-là juste mettre deux apostrophes à Hells ou enlever l'apostrophe ou l'écrire autrement. Et le logo, à proprement dit, n'aurait plus été une infraction. Là, c'était toujours complexe et lourd de conséquences. Là, en ce moment, la décision qu'ils ont envie de prendre sous les conseils de M. Lafrenière et la solide équipe, je pense, de vieux sages policiers qui vont le guider, c'est de dire, on va le passer en règlement municipal. Arrêtez, on voit ces gens-là se pavaner, là, ils se pavanent comme des princes, là, ouais. En s'habillant avec le beau habit, ton habit, là, tu ne peux pas l'apporter en public parce que c'est un symbole d'une organisation criminelle. Je pense que cet objectif-là est déjà plus simple, plus facile et va devoir quand même passer le test des tribunaux parce que ça va devenir une loi sous le couvert d'une loi provinciale, par exemple. Ouais. Ça va être nos tribunaux du Québec qui vont l'appliquer. Mais je pense que c'est une belle logique à essayer, du moins...
Parfait. Mais maintenant, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans notre société que ces gars-là puissent plus s'afficher? Puis je vais te donner mes cartes tout de suite. Là, je ne suis pas un spécialiste au poker, fait que ça sert à rien d'essayer de te cacher mes cartes. Il y a des gangs de rue à travers le monde, pensons au M13, où ils ont des tatouages dans le visage, puis ça l'indique de quelle gang ils font partie. On a les triades chinoises qu'on peut avoir à Montréal. On a la mafia russe qu'on a à Montréal. On a la mafia italienne qu'on a à Montréal. Ces gens-là ne sont pas nécessairement identifiés, sauf peut-être par des tatouages ou même certains, c'est des bijoux. Qu'est-ce que ça a comme impact que les Hells Angels ne s'habillent pas en Hells Angels ou que des sympathisants n'aient pas des gilets, exemple « Support your local 8-1 ».
En fait, tu l'écoutes très bien, la majorité des organisations criminelles se cachent et sont une très grande discrétion dans leur façon de faire. Parce que dès qu'on peut identifier certains critères, ça devient des motifs pour nous autres au niveau interception, puis ça donne des motifs de base pour aller, en fait, commencer à intervenir. Là, eux autres, le fait que ces gars-là se promènent avec leur patch, c'est une démonstration. Ils le font pour montrer, regarde qui je suis, je me montre, je suis un criminel, je te le dis que je suis en haut, je veux faire peur au monde, et c'est le critère de fond, c'est le volet intimidation. C'est comme si tu débarques avec un uniforme de police, par exemple. Bon, on sait déjà que tu es un policier. Quand tu le fais avec une discrétion en linge civil, autrement, faut que tu t'identifies. Il y a tous des critères, Mais dès que tu vois arriver un policier avec son uniforme, ça a déjà de l'impact sans avoir dit aucune parole. Le membre des Hells Angels le fait pour faire un phénomène d'intimidation, de peur et démontrer sa puissance. Et ils ont réussi à le démontrer au fil des années, qui était une organisation internationale, qui faisait partie du 1% des criminels, mais qui s'affichait et que les policiers ne pouvaient pas, je dirais pas rien faire, mais sont limités dans les pouvoirs. Alors que là, si on leur dit, hey, ton beau logo, là, tu ne pourras plus le porter en public. Et tout ce qui dérive de ça, et on n'encouragera pas tes compagnies à le faire. Parce qu'ils ont plein de support de plein d'autres compagnies en ce moment.
C'est un bon point, ça, leur couper les vivres, parce que les Hells Angels vendent leur linge au marché aux puces maintenant, et ça s'est vendu dans les Walmart, ce qu'on pensait pas possible. Là. Roger, j'imagine que si tu reviens 20 ans plus tôt, tu te serais jamais dit « Hey, vendre un crest des Hells Angels au Walmart, ça a comme pas de sens. »
Ben, tu le dis bien, puis même il y a une époque que c'était même interdit pour quiconque de porter quoi que ce soit qui ressemblait à cela.
Exact.
Alors que là, ils ont dit non, on va un peu noyer le poisson et on va faire du cash avec ça aussi. Les chandails sont de belle qualité au niveau du tissu, là, je le conviens. Tu sais, c'est pas de la cochonnerie, mais ils mettent un logo là-dessus qui dit Support Hells Angels en utilisant les lettres H et A ou AFFA, appelons ça comme vous voulez, les abréviations Angel Forever, Forever Angels, toujours des termes anglais, mais c'est pas une loi sur la langue française qui va leur interdire de s'afficher eux autres, mais c'est plutôt le principe de fond qui fait que ces gens-là, ils affichent un logo criminel, ils représentent un monde criminel, ben vous avez le droit les gars, mais comportez-vous comme des gens qui sont cachés, discrets, en fait... Si vous voulez comporter comme un rat, ben cachez-vous comme un rat. Arrêtez de vous mettre au public et de vous exposer au grand public, puis qu'on va vous laisser carte blanche pour nous montrer que c'est vous autres les régulateurs du système. C'est pas vrai, moi ça me rentre pas dans la tête non plus depuis des années, mais je vous le dis, ça prend toujours le tribunal à la fin qui va trancher en dire oui, on appuie. Et c'est ça qu'on veut maintenant dans notre société.
Roger, je voulais aborder un autre sujet avec toi. Celui-là est plus sensible parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce dossier-là, d'un bord comme de l'autre. Toi, tu es un ancien policier, fait que j'imagine que tu vas comprendre un peu les émotions que le policier peut vivre actuellement avec ce qui s'est passé hier. Je vais laisser Max refaire la nouvelle concernant ce jeune de 15 ans qui a été tué lors d'une opération policière.
Oui, il y a enquête du bureau, des enquêtes indépendantes là-dessus présentement. Ça s'est passé à Longueuil dimanche. Nouran Rezaï, qui a été tiré par des policiers, qui est intervenu après des appels aux services d'urgence concernant un groupe de près de 20 jeunes potentiellement armés. Puis là, ce qu'on nous dit, selon ce que des témoins ont vu, la victime qui aurait mis ses mains dans son sac à dos alors que les policiers avaient leur arme braquée vers lui. Puis c'est à ce moment-là que au moins une balle a été tirée. Plusieurs témoins parlent de deux et le décès a été constaté après des manœuvres de réanimation. Finalement, on n'avait pas trouvé d'arme à feu dans le sac. La famille qui envisage un recours au civil contre le service de police de la ville de Longueuil. Puis en passant, le bureau des enquêtes indépendantes va faire un point de presse là-dessus là, pour faire le point ce matin.
Une histoire qui est atroce, Roger, d'un bord comme de l'autre. Je pense pas qu'un policier se lève le matin avec l'espoir de tuer un jeune de 15 ans. C'est important de dire aux auditeurs que les policiers avaient comme information avant d'arriver sur place qu'il y avait un regroupement de jeunes dont certains étaient armés. Donc, les policiers se sont méfiés en arrivant et ont dégainé leurs armes. Et là, il y a un geste qui a été posé qui a laissé craindre le pire pour le policier qui a tiré. Il y aurait eu deux balles de tirer, mais ça, ce sera au bureau des enquêtes indépendantes de nous le dire. C'est quoi les règles d'engagement quand on est policier avant de tirer?
En fait, c'est le genre de situation extrêmement triste ce matin qui arrive puis qui est extrêmement difficile, tu l'as dit de départ, là. Qu'à chaque fois que tu fais une intervention comme policier, tu essaies d'avoir une survie légale, une survie opérationnelle, mais également une survie psychologique. Et en ce moment, ce qui vient de se passer au SPAL, là, au service de police d'agglomération de Longueuil, je pense sincèrement que ça pourrait se passer dans beaucoup d'organisations policières au Québec. Je m'explique. À chaque fois qu'un policier intervient, là, il y a une perception d'une situation. Il y a une situation qui existe. Là, à ce moment-là, il faut qu'il fasse un petit plan puis qu'il passe à l'action. Et là, voyez-vous, qu'est-ce qu'il y avait en avant d'eux quand ils intervenaient là-bas? Ben, on est dans un contexte des jeunes armés. Ils ont des cagoules. Ils interviennent pour de la violence urbaine suite à des appels de policiers. Alors là, la perception qu'il y avait, l'analyse qu'il en a faite, la prise de décision et après ça, pour passer à l'action, comment est-ce qu'il a fait ça? C'est là qu'il va devoir le justifier. Puis c'est extrêmement difficile en ce moment de vouloir se prononcer. Regarde, c'est le bureau d'enquête indépendante qui va le dire. La finalité est triste parce que le jeune, celui-là, qui en est décédé, n'avait pas d'arme. Je te dirais par contre, d'être intervenu avec un paquet de jeunes, d'un paquet de situations, on est rendu dans un moment où est-ce que nos jeunes en ce moment défient rapidement l'autorité, posent des gestes en groupe. Les plus vieux influencent les plus jeunes ont du guts, on les laisse aller, ils deviennent ceux qui viennent, qui prennent le premier plan, puis qui sont ceux qui s'affichent comme étant « je vais l'essayer, moi j'ai le guts de le faire ». C'est triste parce qu'en ce moment, on exploite beaucoup de jeunes en ce moment qui subissent de mauvaises influences et qui sont en train de se mettre le doigt dans l'engrenage vers des systèmes où est-ce que si on te donne un arme à feu, ou si on t'offre la possibilité d'avoir un arme à feu, tu peux devenir un héros temporairement. Et c'est de plus en plus jeune. Puis je te le dis, allons pas penser que ça peut se passer rien que là, là. Pour une arme à feu, à peu près que les policiers saisissent, là, entre vous et moi, là, il y a à peu près une dizaine d'interventions en ce moment où est-ce que les policiers retirent des armes à feu de la rue. Alors, c'est plus une légende urbaine. Ce n'est pas un jeu en ce moment, bien que plusieurs jeunes se pratiquent en ce moment sur les jeux vidéo à avoir des actions. On affronte la police, on affronte les citoyens, on se vole des autos. Il y a un paquet de jeux en ce moment que c'est la façon de pratiquer, là. C'est la façon de se mettre en place. Mm-hmm. Ah, je passerai pas à l'action, je ferai jamais ça dans ma vraie vie. Ben, là, vois-tu, les policiers doivent intervenir dans tous ces contextes-là. C'est triste parce que là, à première vue, c'est, oui, on voit qu'il y a un jeune qui est décédé. Je ne pense pas que c'était l'intention du policier. Mais là, il y a eu des actions qui ont amené ces conséquences-là. Et ça va être dramatique, c'est sûr, pour la fin. Là.
Le policier, Roger, là, ses règles d'engagement, c'est s'il craint pour sa propre vie ou la vie de ses pairs autour, donc les citoyens ou encore d'autres policiers, c'est là où il peut se permettre de d'annihiler la menace.
Exactement. Tu exprimes exactement le critère premier. Comme policier, il faut que tu restes en vie toi-même. Alors, si tu penses que ta sécurité, pour commencer, est en jeu, tu peux poser des actions. Parce que c'est triste, puis je l'exprime aux jeunes en classe, j'ai dit, le médecin n'a même pas ce privilège-là. C'est pas un privilège, en fait. C'est une obligation. Si tu penses que ta vie va être prise, ou la vie de quelqu'un, tu es obligé de poser un geste. Mais quelle était la perception, quelle était l'analyse qu'il en avait faite, sa prise de décision, c'est là qu'il va devoir tout le justifier par écrit, de long en large, devant les tribunaux. Les témoins vont être appelés, la scène va être analysée sur tous ses angles. Le policier, bon ou mauvais, n'a pas fini en ce moment de répondre à des questions. Ouais. Et toute l'équipe de travail qui ont travaillé là-dessus.
Je ne veux pas faire de politique avec toi, mais je vais en faire un peu. C'est le genre d'événement où le premier ministre François Legault doit sortir pour faire un appel au calme, parce qu'il y a des regroupements qui militent, exemple, contre le racisme, qui vont reprendre cet événement-là pour dire « Voici, à Montréal, à Longueuil, à Laval, à la grandeur du Québec, il y a des policiers qui sont des racistes, puis ils tirent sur nos jeunes de 15 ans. » Il devrait y avoir une intervention politique à ce niveau-là pour faire un appel au calme, parce qu'aux États-Unis, là, on a connu des histoires qui se sont transformées en guerre civile avec les policiers dans leur ville.
Tu exprimes un point qui est important. Je pense que les décideurs politiques doivent s'impliquer. Ce que je veux entendre le plus, là, je vais te le dire, là, on l'a vu ces dernières semaines dans la région de Montréal, c'est des papas, c'est des mamans, des pères de famille, des mères de famille qui doivent prendre position en ce moment. C'est pas normal qu'un père de famille ne sache pas ce qui se passe dans sa maison en ce moment, qu'il y ait des armes à feu chez eux, qu'il y ait des gens qui se tiennent avec des criminels qui subissent des influences, qui font des actions. En ce moment, on l'a vu faire de plus en plus, là. Des gens qui ont pensé par influence qu'ils pouvaient fonctionner. Ceux que j'aimerais le plus voir sortir, c'est des pères de famille et des mères de famille qui disent « Oui, OK, là, il est arrivé un événement dramatique, mais nous, comme parents, on peut-tu arrêter de domper dans la cour du système de santé, du système policier ou dans la cour de la DPJ, arrêter de domper dans la cour des autres, là? Puis on peut-tu regarder ce qu'on fait dans notre propre cour un petit peu, là? Moi, je pense que l'éducation et les bonnes attitudes de nos jeunes doivent commencer à la maison. Puis après ça, je continue à l'école et j'en suis pour la suite.
Roger, en terminant, est-ce que ça peut amener les policiers de plus hésitants dans leurs prochaines interventions, un événement comme ça, compte tenu que le jeune, finalement, n'était pas armé?
C'est sûr que ça va nourrir ce volet-là. C'était déjà une problématique pour les policiers en ce moment de faire un peu de désengagement. et de se retirer des fois de certaines interventions qui peuvent être à risque, je vais attendre. L'évaluation du risque n'est pas faite. Je vais peut-être regarder à gauche alors que ça se passe à droite. C'est triste parce que ça fait en sorte que nos bons arbitres, les courageux, ceux qui devraient faire le travail en ce moment de protéger la sécurité, vont peut-être penser plus à leur carrière que de penser de poser le bon geste d'intervention au risque tantôt de se faire juger ou de se faire blâmer.
Ça va te faire des sujets à discuter à l'école de police, Roger?
Ah, je sais. Matin, j'ouvre avec un examen dans les premières minutes, mais d'après moi, après, on va sûrement en parler un petit peu.
Ça a été un plaisir. Un gros merci, Roger Ferland.
Merci, Roger.
Bonne journée à vous autres.
Bonjour. Roger Ferland, ex-enquêteur OSP, vécu. Quelle histoire quand même. Ouais. Un jeune de 15 ans qui était dans un regroupement où il y avait énormément de gens qui auraient été armés. Les policiers ont cette information-là. Il arrive sur place. L'adrénaline est au maximum. Il n'arrive pas 20 sur place. Là, on parle de deux policiers qui sont arrivés, qui ont dégainé parce qu'ils craignaient qu'il y avait des armes à feu.
Craignaient pour leur sécurité, exactement.
Et là, tu as un jeune qui a fait un geste malheureux en mettant sa main dans le sac. Policier qui doit sûrement l'avoir averti en disant « Sors la main de ton sac », le jeune qui a fait un geste brusque, qui a été abattu, des deux bords, c'est d'une tristesse.
Ah, c'est d'une tristesse incroyable. Roger amène un bon point quand il parle de jeunes qui défient de plus en plus les policiers, défient de plus en plus l'autorité. Souviens-toi, l'an passé, au parc à côté du plateau Charlebourg, le jeune en scooter, toi, devant le char de police pour pas que le char de police avance. Puis là, toute la gang regroupée, tu sais, des fois, on peut penser, ben voyons donc, c'est des adultes, sont avec des jeunes. Ouais, attends une minute, là, quand sont 40 autour de ton char de police, jeunes de 15, 16, 17 ans, il y en a qui ont des bonnes shapes, tu sais pas ce qu'ils ont dans les mains, tu sais pas s'ils ont des armes à feu, ça reste que ta sécurité met en danger en tant que policier.
L'événement dont tu parles à Charlebourg, la mère qui était sortie en oui, plus après ben oui. pour dire que les policiers étaient allés trop loin, à foncer sur lui en auto alors que tu voyais...
Mais que c'était le kid qui s'est déplacé là pour ouais. les défier.
C'est sûr qu'avec des parents de même.
Ben, c'est ça. Quand Roger parle de responsabilité parentale, une mère comme ça, malheureusement, n'aide pas.
Ah, puis c'est tough. Puis des fois, tu as l'impression que tu as élevé tes enfants du mieux que tu peux. Puis tu as deux gars qui sont top shape, une fille qui est top shape, puis tu as le petit mouton noir qui vire un peu croche, qui te dit jamais où il est, puis avec qui il se tient. Tu apprends ce genre d'histoire-là, tu mets ça sur toi, là.
Ben oui.
C'est de ma faute.
Alors ben oui, tu te dis, voyons donc comment ça, j'ai pas vu ça comme parent.
À un moment donné, à 15 ans, le jeune peut commencer à prendre ses propres décisions. Fait que, tu sais, est-ce ouais. que t'as vraiment une grosse part de responsabilité là-dedans? C'est une bonne question. T'sais. Puis je comprends cette mère de famille-là qui voulait défendre son enfant. Mm-hmm. Probablement que, tu sais, le jeune de 15 ans avait un père et une mère. Probablement qu'ils vont vouloir défendre leur enfant. Mais moi, si,
ouais,
j'étais
moi,
François,
la mère...
si j'étais François Legault, je sortirais tout de suite. Ou si j'étais à la mairesse de Longueuil, je sortirais tout de suite en disant, savez-vous quoi? Appel au calme, là. Voici les données que les policiers avaient quand ils sont arrivés sur place. Voici le regroupement de jeunes, de quoi il y avait de l'air. Des jeunes cagoulés. On mentionnait qu'il y avait aux policiers qu'il y avait des possibilités que les jeunes aient des armes sur eux. Pour parler du contexte, parce que là, ça va virer en racisme. Ouais. Racisme systémique. Les policiers ont tiré deux fois. C'était tout à fait injustifié. Il y a des organisations à grandeur du Québec qui vivent de ce genre de drame-là pour justifier leur travail, pour avoir des subventions années après année, puis avoir des dons du public. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils vont se battre tout le temps pour qu'on compte la police, exemple, quand il arrive ce genre de truc-là. Là. Puis, attendons, comme tu as dit, puis comme j'ai dit tantôt, attendons
pas
le résultat de l'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Puis, au bureau des enquêtes indépendantes, c'est pas tout le temps des pères qui enquêtent. Là.
Non.
C'est
non,
des gens qui proviennent de tous les milieux. Là.
Puis, ils peuvent être très brusques avec les policiers. Juste une petite parenthèse, la mère avec le scooter, là, moi, je serais pas sorti des maisons pour défendre mon fils. J'irai donner une petite leçon. Max!
Laurentienne-Nord, l'accès vers Capitale-Ouest, c'est partiellement entravé en raison d'une sortie de route. D'ailleurs, Capitale-Ouest, entre Seigneurial et Laurentienne, c'est au rouge. Robert Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. En arcade sud, ça commence tranquillement dans le coin de Sainte-Geneviève. En s'en allant vers Shannon, dans le coin de la base militaire, c'est au ralenti. L'accès au pont, c'est lettre pour vrai à matin. Là. Ce qu'on attendait hier, c'est pas arrivé, là, mais là, c'est lettre. Par la 20 Est, ça commence à ralentir, hauteur route Lagueux. Par la 73, rue Beaulieu. 20 Ouest, c'est bien jamé quasiment, juste un peu après route du président Kennedy. Fait que ce matin, ben, vous auriez dû partir de bonne heure pour vrai.
Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis. Merci de nous texter. 418-971-101. S'il se passe quoi que ce soit, on fait une courte pause et on revient.
Marceau le matin.